Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Kerialis. 15 minutes d'éclairage, de témoignages, de conseils, de bonnes pratiques. Par les avocats et pour les avocats.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder la nouvelle expérience client. Et pour cela, nous recevons Jean-Baptiste Blanc, qui est avocat au barreau de Marseille, associé au sein du cabinet 102 et exerçant en réparation de préjudices corporels. Alors, pour ce podcast, moi je suis en studio, Jean-Baptiste Blanc est à Marseille. Bonjour Jean-Baptiste, merci de cette participation au podcast Solency.
Et bonjour à vous et je vous remercie également pour votre invitation.
On sait que la satisfaction client, c'est le nerf de la guerre, comme pour toute entreprise et notamment pour un cabinet d'avocats. Néanmoins, on peut imaginer qu'il y a encore aujourd'hui des marges de progression. Alors concrètement, quels sont les objectifs à atteindre pour vraiment satisfaire vos clients et comment vous y prenez-vous?
Oui, alors en effet, récemment en 2022, le Conseil national des barreaux mandatait Opinion Way pour procéder à une véritable étude d'envergure concernant, donc vous l'avez dit, ce qu'on appelle désormais l'expérience client. L'objectif étant de comprendre notamment les attentes et les besoins des clients vis-à-vis de leur avocat respectif. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce besoin de satisfaction doit intervenir à différentes étapes et c'est peut-être la principale divergence en fait qui existe entre d'une part les attentes des clients et d'autre part le sentiment pour l'avocat d'y répondre. Par exemple, ce fameux sondage nous précise que 94% des avocats considèrent savoir si leur client est satisfait ou non compte tenu de la relation de travail qu'il entretient avec lui. Et donc pour la très grande majorité des avocats, la satisfaction client se limite à ce qu'est cette relation de travail que l'avocat peut entretenir avec lui. Or, les attentes des clients sont évidemment bien plus larges. C'est également ce qui ressort de ce même sondage. En effet, si la relation de travail est bien évidemment déterminante dans le processus de satisfaction du client, les besoins interviennent à d'autres étapes. Et donc, c'est certainement là-dessus que nous, les avocats, nous avons certainement à travailler pour tenter de nous améliorer. Ainsi, l'expérience client commence bien avant la relation de travail, c'est-à-dire dès le stade de la recherche pour le client. En effet, avoir accès à un avocat, ce n'est pas quelque chose de si simple pour la plupart des gens. Alors, certains ont déjà eu accès à des avocats au sein de leur famille. D'autres vont contacter leurs avocats futurs grâce au bouche à oreille, qui est un outil qui fonctionne encore très bien du reste. Mais la plupart des gens vont devoir chercher par eux-mêmes. Et donc, c'est la première étape de ce qu'on appelle désormais l'expérience client. Lorsqu'on fait référence au fameux sondage Opinion Way, on a une note qui est flagrante, c'est 5,7 sur 10. C'est la note que les clients vont attribuer aux avocats pour les efforts qu'ils vont faire en vue de favoriser les recherches pour trouver un avocat. Et donc, on voit bien qu'il y a des efforts à consentir encore plus pour l'avocat pour satisfaire les clients. Donc, ces recherches, aujourd'hui, c'est une évidence. Elles sont désormais faites de façon dématérialisée. Et donc, la présence en ligne, c'est devenu indispensable pour pouvoir exister. On voit de plus en plus régulièrement la présence des avocats sur les réseaux sociaux. C'est effectivement devenu monnaie courante et ça favorise nécessairement la visibilité de l'avocat. À charge pour lui, et c'est une évidence, de pouvoir communiquer dans le respect de nos règles déontologiques, bien évidemment.
Ok, c'est très clair. Une fois que ce premier contact est établi en confiance et en transparence, comment on fait pour la maintenir tout au long de la collaboration entre l'avocat et son client ?
Oui, alors c'est évident, en relation de confiance, c'est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que le parcours client soit réussi. Ça doit reposer sur la confiance entre l'avocat et le client et confiance réciproque entre le client et l'avocat. L'avocat a évidemment un rôle déterminant pour répondre aux attentes légitimes de sa clientèle. Et ces attentes sont nombreuses. Alors vous avez parlé de transparence, mais pas que. En premier lieu, et c'est ce qui ressort de ce sondage, et c'est ce qui ressort régulièrement lorsqu'on discute avec nos clients, c'est la réactivité. L'avocat se doit d'être réactif. À l'heure de la dématérialisation encore plus, c'est peu de choses que de dire qu'aujourd'hui l'échange par courrier interposé qui mettait plusieurs jours avant d'obtenir une réponse ou de transmettre un quelconque document, c'est une époque qui est largement révolue. Aujourd'hui, le client a un besoin absolu de réactivité de la part de son conseil. Un email doit par exemple être traité dans les 24 heures de son envoi initial, c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet, quelle qu'elle soit, mais d'une réponse, peu importe la nature de cette réponse. Ce peut être tout simplement un mail accusant la bonne réception, précisant que son objet sera traité plus tard. L'objectif, c'est procéder à une forme de réassurance vis-à-vis de son client. Et ça, c'est ce qui ressort du sondage Opinion Way. 79% des personnes interrogées souhaitent recevoir une réponse dans les 24 heures. C'est une quasi-immédiateté. À défaut de quoi, est estimé que le lien de confiance risque d'être rompu. Donc la réactivité, pour moi, c'est le premier pan de cette relation de confiance qui doit être établie entre l'avocat et son client. On parle de réactivité, on peut parler également de fluidité. Fluidité dans les échanges, c'est également une des attentes qui ressort régulièrement de la part des clients. Le rapport avocat-client est trop souvent complexe. Ça tient évidemment à la complexification de notre métier à travers les choix stratégiques, procéduraux, les écritures, les échanges entre confrères, tout un tas d'éléments qui est difficilement intelligible pour le client. Et c'est pour cela qu'il est important, dès la première prise de contact, d'avoir des échanges clairs, des échanges transparents, des échanges simplifiés. Le client a besoin de comprendre, avec ses propres mots, quels peuvent être les enjeux, quelles peuvent être les stratégies à mettre en place dans le cadre de son affaire.
Alors, on a parlé de réactivité, on a parlé de fluidité. J'imagine que la disponibilité est aussi un point extrêmement important.
Alors, le client peut avoir souvent besoin d'échanger avec son conseil par téléphone. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, c'est un conseil à prévoir une plage horaire régulière de rappel téléphonique lorsqu'on n'a pas pu satisfaire initialement son client. Peut-être en conclusion, un dernier point, non des moindres à satisfaire lors de la première prise de contact, il s'agit de la question de l'intervenant qui sera en charge du dossier. C'est une des problématiques qui est souvent soulevée par les clients et en tout cas qui fait état de difficultés rencontrées régulièrement. Il est vivement recommandé d'indiquer clairement et dès le départ au client s'il sera pris en charge par un seul ou par plusieurs avocats lors de la gestion de son affaire. Le client a évidemment un besoin permanent de connaître qui sera son interlocuteur. C'est ce qu'on appelle la transparence dans la gestion de son dossier. Dans tous les cas, il est véritablement recommandé de procéder de façon régulière, pour ne pas dire de façon permanente, à ce qu'on appelle une réassurance avec son client. L'objectif étant de comprendre quelles sont ses attentes et leurs éventuelles évolutions tout au long de la procédure, avec pour objectif de tenter de les satisfaire sans discontinuité.
Alors, on arrive là maintenant, si on suit un peu le processus logique de l'acquisition du client, au maintien du client au sein du dossier, on arrive maintenant à la question des honoraires. Alors, c'est souvent un sujet assez délicat. Comment on peut faire pour faire preuve de transparence de manière, j'allais dire, naturelle, sans pour autant effrayer le client ?
Oui, vous l'avez dit, alors c'est effectivement un sujet délicat, pour ne pas dire épineux, et c'est de façon totalement anormale, j'ai envie de dire, un sujet sensible. Il peut exister malheureusement au sein de notre profession, et pas que, un réel problème de transparence relatif à la facturation, et aussi et surtout à l'évolution du montant des honoraires en cours de procédure. Et cela, forcément, ça se ressent chez le client, qui souhaite que cette question soit bien expliquée, soit bien abordée dès le premier rendez-vous. Alors, je fais toujours référence à ce fameux sondage OpinionWay pour le Conseil national des barreaux, que près de la moitié des personnes interrogées ne se sentent pas satisfaites lorsque les problématiques liées aux modalités de paiement et aux honoraires ne sont pas clairement évoquées lors du premier entretien. Alors, il semble évident de devoir expliquer dès le début quelles peuvent être les évolutions prévisibles d'un dossier. Par exemple, je vais faire état de mon domaine d'expérience, dans mon domaine d'exercice, à savoir la réparation des préjudices corporels. Un grand nombre de situations se règlent dans un cadre transactionnel, c'est-à-dire dans un cadre amiable et donc hors judiciaire. Pour autant, et pour diverses raisons qui appartiennent à chaque dossier, il arrive que la phase amiable n'aboutisse pas, entraînant nécessairement un besoin de saisine juridictionnelle pour permettre à un magistrat de trancher le litige. Donc, il est déterminant, dès le premier entretien avec le client, de connaître les différents aspects de la procédure afin de ne pas être surpris ou de ne pas se sentir lésé lors d'une quelconque évolution dans le traitement de son affaire. En tout état de cause, dans tous les cas, c'est une obligation déontologique qui pèse désormais sur l'ensemble des confrères et quel que soit le dossier qu'il a à traiter, l'avocat est tenu de rédiger une convention d'honoraires avec son client, laquelle convention va devoir préciser notamment, je cite, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers prêts et débours envisagés. Cette règle déontologique est inscrite à l'article 11 de notre règlement intérieur national et elle prévoit de façon détaillée les droits et obligations qui vont peser sur l'avocat.
On va passer à un autre sujet qui peut poser des questions à certains ou certaines de vos consoeurs ou de vos confrères. C'est la concurrence qui, vu le nombre d'avocats et la densité par endroit, est rude entre confrères et consoeurs. Mais aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je pense ChatGPT par exemple, ou les IA génératives, et aussi une concurrence qui commence à être un peu plus ancienne, mais de plus en plus envahissante, les fameuses legal tech, les plateformes juridiques en ligne par exemple. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, sur des grands principes un peu plus généraux, comment se démarquer ?
C'est effectivement une des réalités du marché de la profession d'avocat. Le métier est ultra concurrentiel et c'est pas fait pour t'améliorer. Pour autant, il existe différents outils qui vont permettre à l'avocat de faire valoir une certaine plus-value, à commencer par son expertise. Nous sommes des gens de droit et nous devons faire valoir notre expertise juridique avant toute chose. L'avocat qui exerce dans tel ou tel domaine particulier est en droit de le faire savoir et il est en droit de communiquer sur ses domaines de compétences. Alors, domaine de compétences, nous avons par exemple le certificat de spécialisation qui peut être obtenu via le Conseil national des barreaux dans une matière qui est prédéfinie et sur des conditions et des critères qui sont préalablement fixés L'objectif est clair, hein, il est d'améliorer la lisibilité des compétences de l'avocat pour le client et donc d'arriver, en tout cas de tenter, de se démarquer de ses concurrents. Mais tout le monde n'est pas détenteur d'un certificat de spécialisation. L'avocat, dans ces cas-là, est en droit de communiquer sur ses activités dominantes, c'est-à-dire sur des activités qu'il exerce réellement et qu'il exerce régulièrement au sein de son cabinet afin de renseigner, en tout cas de tenter de renseigner utilement son client sur ses compétences objectives. Moi, c'est de cette manière que je tends à communiquer. Mais pour se démarquer donc de cette concurrence accrue, l'avocat doit comprendre, en tout cas, il doit tenter de comprendre sa clientèle afin de répondre à ses attentes et d'y apporter une plus-value. On assiste depuis un certain temps à un essor notamment des cabinets dématérialisés. C'est peut-être un outil nouveau qui peut permettre à l'avocat d'arriver à se démarquer. Alors certains cabinets du coup dématérialisés, tout en continuant leur exercice traditionnel, proposent, en tout cas tentent de proposer de plus en plus de services en distanciel. On peut citer quelques exemples concrets. On voit aujourd'hui un développement de prises de rendez-vous qui peuvent se faire en ligne. Et ça répond aussi à une attente des clients. À la lecture du sondage OpinionWay, on a près de 8 clients sur 10 qui déclarent vérifier avant de choisir un avocat si ce dernier propose une prise de rendez-vous en ligne. Donc, c'est un élément qui témoigne d'un besoin d'évolution, voire de modernisation de la profession dans les services qu'elle peut fournir à sa clientèle. Donc, si la prise de rendez-vous peut se faire en ligne, que dire du rendez-vous ? Aujourd'hui, on a tout un pan de la clientèle qui ne veut plus se déplacer au sein d'un cabinet, qui aimerait que leur avocat leur propose des rendez-vous via notamment des vidéoconférences. Puis, il y a différents éléments, notamment un élément que nous pratiquons au sein du cabinet, c'est la contractualisation d'une convention d'honoraires de façon dématérialisée. Le client se déplace plus au cabinet pour signer sa convention d'honoraires et ça se fait de façon totalement dématérialisée.
D'accord. Alors, dernière question. Pour s'améliorer, il faut savoir ce qui va et ce qui ne va pas, évidemment. Comment est-ce qu'on peut recueillir les avis des clients et comment, derrière, utiliser toutes ces données, ces retours, pour améliorer la pratique ?
Alors, il n'y a pas 40 possibilités. Des sondages, des questionnaires peuvent être proposés aux clients en fin de parcours pour pouvoir évaluer quel a été le parcours client. Ça peut paraître long pour certains, ça peut paraître complexe pour d'autres. Il y a la possibilité également de solliciter le client en leur demandant d'émettre un avis. Nous, c'est comme ça que nous fonctionnons au sein du cabinet. Lorsqu'on clôture un dossier, on fait parvenir un mail qui est automatisé, qui demande au client quel est son retour d'expérience, savoir s'il a été satisfait ou non, et d'émettre un avis que nous publierons sur notre site lorsque ce dernier accepte d'y répondre. Cette dernière étape de l'expérience client est essentielle pour permettre de mesurer, pour permettre d'optimiser la satisfaction de ce dernier. Mais surtout, et c'est quand même l'objectif, de tenter de corriger ce qui a pu faire défaut afin de tenter de s'améliorer vis-à-vis de sa clientèle.
Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était une discussion passionnante sur l'expérience client et je pense utile à tous. On se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt.